Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le pass sanitaire, est-ce qu'il faut le supprimer ou lever les restrictions ? On est avec Anthony qui est un professionnel de la santé. Bonjour Anthony.
Bonjour Pascal.
Oui ou non ?
Oui. Et c'est une question qui paraît tellement simple, presque ça sent le pléonasme, et pourtant à mon avis les réponses sont beaucoup plus complexes.
Eh bien, nous allons en parler ensemble, mais le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, Emmanuel Macron qui demande pardon aux harkis au nom de la France. Le chef de l'État estime que le pays a manqué à ses devoirs à leur égard. Un fonds d'indemnisation devrait être créé. Un projet de loi pour proroger le pass sanitaire sera débattu et présenté en Conseil des ministres le 13 octobre prochain. C'est ce qu'annonce l'entourage de Jean Castex, le Premier ministre. Et ce, alors que de plus en plus d'élus réclament la mise en place d'un pass sanitaire local, département par département. C'est le cas du président du conseil départemental de la Nièvre qui était notre invité sur RTL il y a quelques minutes. Chez lui, le taux d'incidence est sous la barre des 30 pour 100 000 habitants. Et puis l'UFC Que Choisir qui s'inquiète face au risque d'explosion des prix de l'électricité, plus 11% d'après l'association en début d'année 2022. Elle en appelle au gouvernement et demande la suppression d'une partie au moins de la TVA sur l'électricité. Côté ciel, Claire Delorme, ce sera encore bien bien pluvieux cet après-midi.
Exactement, le parapluie sera de rigueur, surtout de la Normandie, donc du Pays de Caux en direction de la région Rhône-Alpes. On aura quand même de bonnes averses, donc relativement actives. Également une tendance orageuse dans le sud-ouest avec là aussi quelques averses. Par contre, ça va un petit peu se morceler du quart nord-est entre les Hauts-de-France vers l'Alsace avec là aussi un petit grain de pluie qui ne sera pas à exclure. Par contre, les éclaircies vont revenir progressivement, vont même être jolies de la Bretagne vers la façade atlantique. Le soleil, bien évidemment, se maintient en Méditerranée, mais au prix de la tramontane qui va quand même souffler modérément jusqu'à 60-70 km/h et même plus de 90 km/h du côté de la Corse. Donc soyez prudents. Et donc pour les températures, les maximales vont varier entre 17 et 22 degrés sur l'ensemble du pays. 17 degrés à Lyon, 22 degrés à Lille ou encore à La Rochelle. Ça fera un petit peu plus frais par contre pour la Bourgogne, entre 14 et 18 degrés seulement de la Nièvre à la Saône-et-Loire. Et par contre, pour la Méditerranée, il faudra compter entre 23 jusqu'à 27 degrés.
Et demain, retour du soleil pour tout le monde ?
Alors pas pour tout le monde, un petit peu de patience pour la moitié sud qui va garder une couverture nuageuse assez dense, ponctuée encore de quelques averses. Par contre, pour la moitié nord, ça devient beaucoup plus calme et sec, avec même le retour des éclaircies pour tout le monde.
Voilà. Merci
plutôt
Claire.
Sympa, je vous en prie.
Merci Amandine, merci Claire.
À
les auditeurs
bientôt.
Ont la parole jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Vous le savez, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué de nouvelles pistes pour que les Français puissent respirer le plus tôt possible. Dans une interview au Parisien, alors que l'épidémie semble reculer, parmi elles, la levée du pass sanitaire dans certains endroits, là où le taux d'incidence est faible, peut-être en dessous de 50. Ça pourrait être un critère. Anthony, donc, qui est un professionnel de la santé, il dit oui, mais c'est plus complexe. C'est-à-dire, Anthony ?
Eh bien, rebonjour. Bien évidemment que c'est beaucoup plus complexe. Moi, je me suis attardé sur deux points. Je vois deux réponses, en fait. La première, oui, bien évidemment qu'il faut l'enlever, parce que vous me demandez mon avis, je vous le donne aujourd'hui. C'était une hérésie de le mettre en place. Donc, bien évidemment, il faut l'enlever. Voilà.
Oui, effectivement, si
ça,
vous partez
première,
de là...
Voilà. Si en partant de là, bien évidemment, je ne pouvais pas vous répondre autrement qu'en vous disant ça pour ce premier point. C'était une évidence.
Pourquoi vous dites que c'est une hérésie, par exemple ? Ça m'intéresse.
Écoutez, si vous vous avez souvenir, je suis passé sur votre antenne fin du mois d'août et on en avait déjà discuté ensemble, Pascal. Et j'avais pas eu besoin de faire la démonstration, vous l'aviez faite vous-même, comme quoi la vaccination avait été faite majoritairement, et j'en reste persuadé, je vais avancer aucun chiffre, je les ai pas, mais majoritairement pour des raisons sociales, et qu'on n'était pas sur une base de vaccination, donc quelque chose de sanitaire, mais bien quelque chose de social. Donc on n'était pas sur un pass sanitaire.
Non, mais bien ça, c'est pas un pass... Vous dites, voilà. C'est une hérésie. Moi, je suis pas un fan, vous
sûr.
Le savez bien, de libertés qui sont attaquées. Mais je m'aperçois, et je pensais qu'il fallait vacciner uniquement les gens les plus fragiles, mais je m'aperçois quand même d'une chose qui est factuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis dans des lieux publics des gens qui étaient vaccinés, restaurants, cinéma, etc., le virus a moins circulé.
Et vous basez sur quoi pour dire ça, Pascal, en fait ?
Je me base sur les chiffres qui baissent.
Les chiffres qu'on vous donne,
les chiffres qu'on donne ne sont pas bons.
Les références qui viennent d'être elles-mêmes dénoncées par les propres personnes et les propres organismes qui les ont sorties.
C'est-à-dire.
C'est comme quand on vous expliquait qu'en fait, dans les restaurants, dans les théâtres et dans les cinémas, c'était les endroits où se transmettait le plus le virus et que cette étude, elle avait été faite pendant que ces endroits, ils étaient fermés. C'est exactement la même chose.
Je dis pas j'en sais rien si ça se transmettait plus ou pas. J'imagine simplement.
On peut pas faire de corrélation.
J'imagine. Il y a une question de bon sens. Si je mets gens vaccinés.
Le bon sens, c'est une chose, Pascal. Les chiffres scientifiques. Attendez, on a remis en place.
Je vous laisse alors. Mais alors pourquoi ça a baissé là depuis un mois ou deux?
Mais c'est comme les histoires de confinement où la courbe elle descendait et on s'apercevait d'une chose, c'était que juste avant le confinement, de toute façon la courbe elle était vouée à redescendre.
C'est que selon vous, si on s'était pas vacciné massivement à partir du 13 juillet, on aurait les mêmes résultats.
Déjà, si on avait changé, si on avait soigné les gens, on aurait eu moins de morts. Oui.
Non, mais ça c'est pas la question. La vaccination pour vous ça sert à rien.
Non. Écoutez, je ne vais pas dire ça. Je ne me permettrai sûrement pas de dire ça. Hein, mais je vais attendre très sereinement les chiffres qui seront donnés après toute cette histoire, parce que je serais curieux de voir quand même. Déjà, c'est quand même super étrange qu'on vous fasse une vaccination, une première injection, puis après on vous dise, c'est pas suffisant, faut en faire une deuxième. C'est pas suffisant, faut en faire une troisième.
C'est extraordinaire. C'est moi qui défends maintenant Olivier Véran, je vous assure.
C'est pas moi qui vais le défendre, ça c'est certain.
Non, mais là, la deuxième, troisième injection, c'est pourquoi? C'est parce que le vaccin, son temps d'efficacité est limité. Mm-hmm. C'est pas très compliqué, ça. Donc, au bout de 6 mois, 8 mois, il n'est plus efficace. Donc, vont refaire une injection.
Si on prend la même réflexion que vous avez là maintenant et celle sur l'éventuelle baisse du nombre de contaminés en lien avec les vaccinations, expliquez-moi pourquoi on ne nous donne pas les chiffres et que le gouvernement lui-même est en incapacité de donner ces chiffres-là. Et pourtant, on peut les avoir. Sur un travail journalistique, vous pouvez les retrouver.
Mais quels chiffres vous parlez?
Les chiffres des personnes qui sont hospitalisées et qui ont eu deux injections.
Ah oui, vous voudriez avoir le nombre de personnes hospitalisées qui ont eu deux ou trois injections.
Et oui, exactement. Et c'est là où ça peut être intéressant.
Mais oui, mais à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on découvrirait?
On découvrirait quoi? On découvrirait qu'en fait, à mon avis, ce vaccin...
Ça sert à rien, en fait. Selon vous, le vaccin ne sert à rien.
Je me permettrais sûrement pas de dire
que c'est
un
peu
rien,
ça que ça veut dire, quoi.
Je pense qu'il protège une certaine partie de la population, en effet, mais sur la propagation du virus, je pense pas qu'il ait d'effet. Non.
Si tu es vacciné, tu transmets deux fois moins ou trois fois moins
Pascal, s'il vous plaît. Entre Véran qui, sur trois interviews différentes, sort trois chiffres différents concernant la proportion
c'est
de
vrai.
Transmission.
Mais c'est vrai, vous avez raison.
Et c'est très bien, ça rebondit sur le deuxième point où je vous disais que cette réponse, elle était très complexe. Ouais. C'est que vous avez Emmanuel Macron premier qui vous annonce lors d'une sortie que bien évidemment comme les chiffres sont en train de diminuer, on peut-être penser, on va rester sur du conditionnel parce que ça c'est le temps qu'ils maîtrisent le plus dans leur langue, mais on va peut-être penser à diminuer les restrictions. Et en même temps je lis ce matin Le Parisien et on entend que Jean Castex porte une prorogation du pass sanitaire, une loi en proposition pour pouvoir le prolonger.
Oui.
Mais on doit croire qui, en fait?
Non, parce que je comprends. Alors, on va laisser marquer une pause. Je sais pas si c'est correct de dire on va laisser marquer une pause. On va marquer une pause. Et là, vous êtes, si vous me permettez, Anthony, un peu de mauvaise foi. Parce que les deux choses ne sont pas incompatibles. Tu peux proroger d'un côté et alléger de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on va l'expliquer dans une seconde. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Cher Laurent Tessier, vous avez passé un bon week-end?
Oui, j'ai été faire des courses. J'ai acheté des vêtements.
Je vous en félicite.
Je vous raconte ma vie.
Mais c'est bien de raconter sa vie. Vous avez raison. Vous êtes resté très simple.
Exactement.
Malgré votre grande réussite.
Ah, merci. Vous êtes gentil aujourd'hui.
C'est vrai.
Que vous arrive-t-il? C'est le début de semaine, Laurent.
C'est le début de semaine. Que nous dit-on sur les réseaux?
C'est le sujet qui vous fait réagir au standard et sur les réseaux sociaux. Faut-il alléger les restrictions dans les départements où il y a par exemple moins
moins de 50 cas pour 100 000 habitants, faut-il supprimer le pass sanitaire là où la situation s'améliore? Première réponse d'Anthony, il y a quelques instants.
Oui, bien évidemment qu'il faut l'enlever. Parce que vous me demandez mon avis, je vous le donne aujourd'hui. C'était une hérésie de le mettre en place.
Quelles mesures attendez-vous? Emmanuel Macron s'était dit prêt la semaine dernière à lever certaines contraintes.
Il y a des départements où on va être amené de toute façon à alléger un peu les contraintes en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc on va faire ça comme d'habitude avec pragmatisme.
Fabien Bazin est le président du conseil départemental de la Nièvre, l'un des départements qui a le plus faible taux d'incidence. Il était l'invité de RTL Midi.
La suspension du pass me semble assez naturelle, quitte à y revenir si jamais, malheureusement, pouvait connaître une rechute.
Alors le pass sanitaire, stop ou encore 32-10, 3-2-1-0.
Donc Anthony, pour terminer, parce que vous avez déjà beaucoup parlé, Anthony, on peut vouloir proroger le pass sanitaire pour utiliser cet outil, pour pouvoir l'utiliser au-delà du 13 octobre, et en même temps, dans certains départements où le taux d'incidence est faible, lever les restrictions. Il n'y a pas antinomie entre les deux.
Alors, il n'y a pas antinomie entre les deux, c'est dans l'application que je crains le plus, en fait, hein, si vous voulez. Parce que depuis le début, on est quand même dans des applications mensongères, des contre-vérités, des incohérences, des chiffres qu'on ne connaît pas trop. Enfin, puis je peux me permettre de vous poser une question, Pascal,
un petit peu peut-être intime.
Avez-vous un chien?
Je n'ai pas de chien, non.
Vous n'avez pas de chien. Moi, j'en ai un. Eh ben, en fait, le pass sanitaire aujourd'hui, comme on nous le propose, je vais avoir cette image-là. On va passer d'une laisse à maillon qui était très très courte. Hein, vous avez la tête du chien qui est collée à votre genou, à une laisse élastique avec un petit bouton sur lequel on appuie. Comme ça, on peut vous arrêter à tout moment. Sauf que moi, vous, tous les gens qui vivent en France, en Europe et sur la planète, on n'est pas des chiens. Voilà. Donc, on aspire à un moment donné à vivre sans une laisse. Alors, je comprends qu'on veuille nous protéger. Je comprends que sa responsabilité à cet État que l'on a élu, hein, soit de nous protéger, mais il y a un moment donné, on va pas nous surprotéger. Moi, mon enfant, quand il se casse la gueule, j'ai un tout petit, là, il apprend à marcher, je lui mets pas un casque. Vous voyez le
non,
truc
mais Anthony, donc, moi, je peux être d'accord avec certaines choses
voilà,
que vous dites. Mais
donc, à un moment donné, qu'on nous laisse tranquille.
Ça va être difficile qu'on nous laisse tranquille. Bon, restez avec nous, Anthony, mais il faut que la parole circule, comme on dit. Romaric est là, qui habite Saint-Brieuc. Bonjour, Romaric.
Oui, bonjour. Pascal.
Vous écoutiez bonjour, Anthony. Quel...
Oui, j'écoutais Anthony. Alors, je veux juste y répondre sur deux points, parce qu'Anthony a dit un truc intéressant. Les chiffres et la science, ça ne monte pas. Mais encore faut-il sourcer et surtout dire de vraies choses. Quand il parle à un moment de l'augmentation du nombre de gens vaccinés à l'hôpital, bah oui, mais c'est un biais statistique qui est bien connu. Effectivement, il y a plus de gens vaccinés, notamment la population fragile. Donc on aura de plus en plus de gens qui sont vaccinés qui vont aller à l'hôpital. C'est normal et c'est rien de grave, mais ça ne veut pas dire que le vaccin est inefficace ou que le vaccin ne protège pas. C'est juste que comme la population de référence est plus importante, fatalement, on va retrouver plus de vaccinés. Et après, l'histoire des rappels de vaccins, mais tout vaccin est soumis à rappel, avec des durées plus ou moins longues. On prend l'hépatite, on prend le tétanos, qui sont, eux, des pathologies plutôt stables. Fatalement, il y a des rappels. Alors après, le problème, c'est que là, on confond l'inconnu et entre guillemets, une volonté de nuire ou une volonté de cacher les choses à la population. C'est pas parce que nos décisionnaires sont dans l'inconnu, et là où je rejoins Anthony, c'est que parfois ils nous ont caché qu'ils étaient dans l'inconnu, qu'ils ne savaient pas s'il fallait faire une dose tous les 6 mois, s'il allait falloir une troisième dose, etc., qu'ils nous mentent ou qu'ils nous mentent à des fins. Ils ont parfois plutôt tendance à cacher leur incompétence ou leur incompréhension ou leur manque d'information plutôt que d'aller essayer de...
Et sur le pass sanitaire, puisque c'est notre question du jour, est-ce qu'il faut...
Et sur le pass sanitaire, alors moi je vais encore une fois être en désaccord avec Anthony, je trouve que c'est compliqué parce qu'on arrive à une situation un peu d'injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'on dit, on va vous donner plus de liberté parce que ça s'améliore, mais peut-être parfois en donner un peu trop vite et être obligé de mettre encore plus de restrictions derrière, ce qui serait très mal vécu par la population. Et le différencier de territoire en territoire, les départements ne sont pas des zones hermétiques.
Mais jusqu'à quand alors? Parce que s'il y a un taux d'incidence, par exemple, dans la Nièvre, tout à l'heure, on est à 22. Donc 22, c'est 0,02, je crois. Hein, 22 pour 100 000 habitants. Donc, en fait, il n'y a personne qui l'a, si je résume.
Il n'y a personne qui l'a. Enfin, tout du moins, il y a
22 pour 100 000, voilà. Ça fait 0,02.
Voilà, il y a peu de monde qui l'a, mais
bah, c'est pas peu de monde, derrière, c'est 0,02, c'est pas grand chose.
Bah, mais Pascal, 0,02, c'est un chiffre qui nous paraît loin comme ça, oui. On en discute entre nous. Oui. Quand vous êtes auprès du terrain et vous voyez des gens qui sont en détresse respiratoire, etc., oui, c'est un chiffre qui est très concret, Pascal.
Non, mais pardonnez-moi, mais là, faut être quand même sérieux, ou alors on arrête tout.
Mais est-ce que le pass sanitaire, se dire on se garde une période d'observation de un mois?
Ah, bah alors voilà, donc un mois, vous vous dites jusqu'au 1er novembre.
Voilà, on se garde un mois ou un mois et demi, le temps de vérifier que les courbes
déjà,
aériennes...
Là, on a pris 15 jours de plus.
Pascal, si vous me laissez aller au bout de ma réflexion, j'ai pas de durée ferme à vous donner, parce que d'une part...
Non, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête quand même.
D'autre part, je suis pas médecin. Mais surtout, avoir une période d'observation en se disant, voilà, on se laisse tant de temps et écouter les scientifiques qui disent, il faut qu'on ait une période d'observation de X temps, et derrière, on pourra territorialiser les solutions, et derrière, on pourra supprimer ces libertés qui sont restreintes.
On va appeler
un médecin. Moi, ça me semble plutôt une bonne
idée. On va appeler un médecin. Je vais vous dire, on va appeler le docteur Marty. Vous avez cette coup de fil à un ami. C'est pas le coup de fil à un ami, c'est le coup de fil à un médecin. Parce que on part sur un sujet. Il faut qu'on puisse être départagé. Donc on va appeler le docteur Marty et il va nous dire s'il faut lever ou pas le pass sanitaire. Je salue Damien Béchiot. Vous avez passé un bon week-end, Damien?
Très bon, Pascal.
Excellent. Notre ami a fait des courses. Vous-même, vous avez fait des emplettes?
Non, je n'ai pas fait de commission.
Vous étiez plongé sur le canapé à jouer, à faire des jeux vidéo?
Ah, pas du tout.
Non.
Repos. Et vous?
Eh bien, moi.
Vous êtes allé à Angoulême ou pas alors?
Non, je n'étais pas à Angoulême. Ah. J'étais à Paris.
La planète ne vous a pas remercié donc.
Je précise effectivement que la planète me remercie. C'est lorsqu'on est dans le TGV à la fin d'un voyage. Maintenant, on te remercie. La planète te remercie parce que t'as pris le TGV et pas la voiture. Mais on pouvait pas prendre la voiture hier. C'est une journée sans voiture dans Paris.
Tout à fait.
La pause, 13h19. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Le coup de fil à un ami, finalement, ce sera le coup de fil à Robert Sebag dans une seconde, qui est infectiologue. Philippe est là. Bonjour Philippe, qui habite Marseille.
Bonjour.
Sur le pass.
Faut-il
supprimer ou non le pass sanitaire?
Ben, moi, je pense que oui, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on l'a vu déjà, parce que les premières régions qui avaient utilisé le pass sanitaire bien avant tout le monde, c'était la Corse par exemple, qui avait mis des restrictions. Il fallait rentrer donc avec une sorte de pass sanitaire, hein, puisqu'il fallait une attestation de vaccination complète ou un test, et ça n'a pas empêché pendant l'été la Corse d'avoir une flambée d'épidémie. Donc on a vu que ça avait peu d'incidence, ce pass. Et surtout, on a des données maintenant complètes contaminées en étant vaccinées. Donc du coup, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt.
On n'arrive jamais d'ailleurs à avoir les mêmes, effectivement, les mêmes infos sur la contamination possible, la transmission plus exactement possible quand vous êtes vacciné. Certains disent qu'on transmet deux fois moins et j'ai parfois entendu six fois moins. Donc on posera aussi la question à Robert Sebag.
Oui, on n'a pas entendu tout. Le problème, il est là, c'est qu'au départ, on avait entendu aussi 95% d'efficacité très tôt avec la vaccination. On s'est aperçu que ce n'était pas vrai. On a entendu beaucoup de choses. Ce qu'on sait, et moi je le vois au quotidien, c'est qu'il y a des personnes vaccinées. Alors souvent, c'est des personnes qui ont été vaccinées dans les premiers mois. Qui attrape et qui l'attrape fortement aussi, hein, et qui donc automatiquement sont contaminantes. Donc, et j'ai une petite anecdote en fait. J'ai un ami pharmacien qui devait prendre ses vacances et juste avant ses vacances, en fait, il ne se sentait pas très bien. Il pensait que c'était un petit rhume, qu'il avait attrapé froid. Donc, il a quand même continué à travailler. Puis, il a pris ses vacances et un soir où il mangeait avec son collègue au restaurant, il se sentait de plus en plus mal, il était fatigué. Il s'est fait tester par son collègue, il était positif, et pourtant c'était quelqu'un qui était doublement vacciné au Pfizer. Et ça ne l'a pas empêché, voyez, avec son pass, de se promener un peu de partout. Alors est-ce qu'il a contaminé? Je ne sais pas. Mais ça montre qu'au final, ça a peu d'intérêt.
Bon, Robert Sebag, infectiologue que chacun connaît. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Est-ce que selon vous, il faut alléger ou supprimer le pass sanitaire dans un département quand le taux d'incidence est en dessous de 50?
Vous savez, Pascal, on est dans un pays comme un grand embouteillage, c'est-à-dire on avance, on freine, et puis on avance encore un peu, on freine, on avance et on freine. Alors, aujourd'hui, et là, il faut le dire vraiment, les chiffres sont très bons en France. Les chiffres sont très bons. Je veux dire, on a eu moins de 5 000 contaminations, on est descendu en dessous de 2 000 en termes de réanimation. Et ça, c'est effectivement la vaccination. Je veux répondre à votre auditeur. Oui, monsieur, en étant vacciné, en particulier avec le Delta, on peut contaminer. Mais on est quand même protégé avec une forte, forte probabilité des formes graves. Tous les gens, Pascal, ça c'est un témoignage direct. Moi, je ne vais pas vous raconter d'anecdotes. Ce qu'on vit à l'hôpital, tous les gens qui font des formes graves hospitalisées, 95%, donc il en reste 5%, effectivement, ne sont pas vaccinés. Ça, c'est une réalité. Et si on a des bons chiffres aujourd'hui, c'est bien sûr les gestes barrières, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi la vaccination. Donc, moi, et vous me connaissez, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'effectivement, là, il faut montrer un signe, en espérant, et on regarde les chiffres régulièrement, il faut être très vigilant sur l'apparition de nouveaux variants, mais là, effectivement, en fonction de l'incidence, on peut arrêter le pass.
D'accord, en dessous de 50, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que vous pouvez nous dire, lorsqu'on est vacciné, combien de fois on transmet moins, si j'ose m'exprimer ainsi, le virus? Est-ce qu'il y a des études précises là-dessus?
Alors, il y a différentes études. Ça va entre 5 à 10 fois moins. Mais ce n'est pas zéro. Ça veut dire qu'effectivement, et on en a beaucoup d'anecdotes, il faut être là aussi très objectif, on peut transmettre, même en ayant été vacciné, mais on a une charge virale beaucoup moins importante. D'accord. Et l'avenir, si vous voulez, l'arrivée de vaccins nasaux, des sprays nasaux qui vont nous permettre au niveau des fosses nasales, puisque c'est là que le virus intervient, d'avoir une meilleure protection. Voilà où on en est, Pascal.
Bon, bah écoutez, les deux questions étaient simples et vous y avez répondu entre 5 et 10 fois moins. Moi, j'entendais 2 fois moins. C'est beaucoup 5 et 10 fois moins. Hein. Vous êtes sur une étude
magnifique. C'est les chiffres qu'on voit dans les études, si vous voulez.
Alors, attendez, moi, je vous crois. J'aurais bien du mal à lire une étude.
Mais c'est pas zéro. C'est ça qui est important. Ça veut dire que oui, le risque existe, oui, de transmission avec ce fameux Delta, j'allais dire un gros mot.
Merci docteur Sebag. Il est 13h27, c'est toujours intéressant d'avoir un petit point, un autre point avec Olivier. Alors Olivier, bonjour monsieur Facebook, vous savez que j'ai eu beaucoup de plaintes ce week-end.
À quel sujet?
Les gens me disent, tu parles pas gentiment à Olivier.
Mais si, en plus moi j'adore ça, donc il n'y a aucun souci.
Donc
Pascal,
il est jeune, faut être gentil avec lui, tu le mets en difficulté sur Nicolas Poussin par exemple.
Mais non, mais vous avez raison, ça me dresse Pascal, vous avez raison.
Vous êtes allé voir, je sais, ce merveilleux peintre depuis du XVIIe siècle.
Eh bien écoutez, malheureusement Pascal, je n'ai pas eu le temps.
Temps.
Désolé Pascal.
Vous avez fait quoi ce week-end?
J'ai été faire de la natation.
Ah, tout le week-end?
Tout le week-end.
Allez, non, vous nagez en piscine peut-être ou
Oui, en piscine, voilà.
C'est intéressant. Bon, merci qu'est-ce beaucoup. Qu'on nous dit sur Facebook?
Eh bien Marie nous écrit sur notre page Facebook, alléger les mesures trop rapidement, c'est un risque. À l'inverse pour Dom, le système du pass sanitaire se déroule très bien, c'est rassurant de l'avoir. Grégory nous dit, oui, il faut alléger les départements verts et conserver les mesures telles quelles dans les autres. Et on conclut avec Eric qui pense que l'on ne vivra plus jamais comme avant sans pass sanitaire.
Ça c'est possible. On a ouvert avec Anthony, on va terminer avec Anthony parce qu'il est toujours là, je vois, il a entendu peut-être le docteur Sebag. Bon ben là c'est clair, 95% des gens qui se font des formes graves et qui sont hospitalisés sont non vaccinés. Je ne l'invente pas, Anthony.
Ne l'inventez pas. Après, c'est un argument que j'ai encore du mal. Vous savez, des chiffres, on en entend tous les jours. C'est le professeur. Mais bon, pour revenir sur cet argument-là...
Non, mais on
ne
peut pas aller contre le réel, Pascal, je vous assure.
Après, je vous laisse. Non, mais je ne vais pas contre le réel.
Non, mais si,
Pourquoi
si.
Pourquoi c'est un argument qu'on utilise maintenant dans ce sens-là et que c'est un argument qu'on n'utilisait pas il y a quelques semaines quand la vaccination ne battait pas son plein pour justifier dans l'autre sens? C'est ça que je veux vous dire.
Ce qui m'étonne toujours dans ces discussions, c'est l'incapacité des uns et des autres à changer d'avis. On peut changer d'avis. La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Emmanuel Macron a demandé pardon aux harkis au nom de la France, ses combattants qui ont été aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie. Vous pourrez réagir dans quelques instants au standard. Le chef de l'État estime que le pays a manqué à ses devoirs à leur égard.
La France leur a lâché la main et leur a tourné le dos. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas.
Le gouvernement portera avant la fin de l'année un projet de loi de reconnaissance et réparation à l'égard des harkis. Près de 200 000 hommes avaient été recrutés dans l'armée française pendant le conflit qui opposa de 1954 à 1962 des nationalistes algériens à la France. Vous pourrez réagir et témoigner au 3210 3210.
Il faut bien comprendre ce qu'est un harki entre 54 et 62, ce qu'on appelait les événements d'Algérie et qu'on a appelé ensuite la guerre d'Algérie. Ce sont des Algériens qui vont choisir l'armée française. Mais ils n'auront jamais le statut de militaire français. On leur donnera d'ailleurs le statut à partir de 74 d'anciens combattants. Mais effectivement, ce sont des gens qui vont aider les militaires français, qui vont parfois garder des villages, qui vont faire des opérations, qui sont 200 000, comme vous l'avez dit, entre 54 et 62, durant le temps de la guerre d'Algérie. Et en 62, ces personnes-là sont en très grande difficulté sur le sol algérien. Donc, beaucoup reviennent en France. Il y en a 42 000 harkis qui seraient revenus en France, notamment dans le sud-est. Et c'est vrai que la France les a laissés tomber. Ça a été une horreur. Hein. Parfois, il y a des exécutions de harkis par des personnes du FLN ou de l'ALN. C'est une horreur absolue la manière dont certaines sont mortes. Donc, c'est une cicatrice, une blessure qui n'a jamais été totalement refermé. On est avec Dominique, avocat et qui a en Saône-et-Loire et qui a entendu le président de la République qui a demandé pardon aux harkis, même si je n'ai pas le chiffre aujourd'hui du nombre de harkis encore vivants, mais c'est des gens qui avaient 20 ans en 62, donc forcément qu'ont au minimum 20 ans en 62, qu'ont 80 ans aujourd'hui, il doit en rester quelques-uns, mais forcément il doit en rester assez peu. Dominique, bonjour.
Bonjour Pascal. Oui, effectivement, il en reste peu, mais mieux vaut tard que jamais, déjà, première chose. Deuxième chose, ces harkis ont eu des enfants et des petits-enfants. Et eux aussi ont souffert du sort de leur père ou de leur grand-père. Donc effectivement, il y a une blessure qui n'était toujours pas refermée de l'attitude de la France que vous avez rappelée. Effectivement, on les a laissés tomber, on les a même volontairement impliqués dans l'aspect militaire de la France en Algérie. C'est-à-dire que vous avez certains officiers qui, avec cynisme, ont pris des harkis dans leur camion militaire pour leur faire le tour des wilayas, pour montrer qu'ils asseyaient leur pouvoir et leur autorité sur place. Et ces gens, eh bien après, ils ont été sacrifiés, ils ont été identifiés à la France. Donc certains avaient choisi la France volontairement, d'autres non. Donc vous voyez un peu la situation telle qu'elle se trouve. Et je trouve également qu'on a raison de demander pardon, parce que l'histoire de France est un bloc. Être français, c'est accepter, se rentrer dans une histoire, qu'elle soit positive ou négative, dans l'honneur comme dans la honte. Et donc effectivement, on ne peut pas dire « je me prévaut de Napoléon, des grandes batailles, de Valmy, de la chute du nazisme, etc. » et puis de dire que quand la France a failli et quand la France a été honteuse, de dire « non, c'était pas moi, j'étais même pas né, ça ne me concerne pas, il ne faut pas demander pardon ». Donc il y a ces deux aspects à voir. Moi, je suis tout à fait favorable. Le seul bémol que je mettrais, c'est que Emmanuel Macron aurait dû le faire plus tôt et pas aux veilles d'une campagne électorale.
Alors, il y a même quelque chose qu'on a oublié. On va en parler avec Ahmed, qui est un fils d'ancien harki. Restez avec nous, bien sûr, Dominique. Ahmed, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est très important, que votre père a dû ressentir lorsqu'il est arrivé en France. Il est arrivé en quelle année, votre père, en France?
Alors, si vous me permettez, Pascal, je voudrais faire l'étymologie du mot harki. Harki, ça vient du mot de l'arabe haraka. Haraka, ça veut dire mouvement. Les harkis, à la base, c'était pour la plupart des paysans. Et quand il y avait donc l'impôt révolutionnaire qui était exigé par les combattants de l'ALN, ils venaient dans les villages et terrorisaient les gens. Donc les gens, il fallait que ces gens-là se défendent. Et quand ils ont demandé à la France de les défendre, on leur a dit « on ne peut pas vous défendre, on vous donne des armes ». C'est ce qu'on a appelé des harakas, des groupes de harkis. Il y avait eu les GMS, tout ça, enfin bref. Donc voilà, à la base, ce que sont les harkis. Donc ça vient bien du mot haraka qui veut dire mouvement et non pas traître, comme diraient certains. Voilà.
Votre père, il arrivait en quelle année en France métropolitaine?
Mon père, il arrivait en 62. Mon père, il arrivait en 62.
Donc tout de suite après les accords d'Évian.
Voilà.
Et donc, à ce moment-là, et on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais les harkis sont très mal accueillis par les Français de métropole, parce qu'ils sont nombreux, parce que on ne sait pas où les mettre, parce que en plus, cette guerre d'Algérie, on ne veut plus en entendre parler, pour plein de raisons.
Alors, Pascal, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que déjà, les harkis, dans les accords d'Évian, les harkis n'étaient pas, ne devaient pas revenir en France. C'est-à-dire que quand la France a signé les accords d'Évian, donc le 16 mars 62 avec le GPRA, donc ce qui était prévu, ils ont dit, voilà, nous, le GPRA a dit à la France, voilà, vous allez nous donner la vécu d'Algérie. Le problème, c'est qu'on a plus de 250 000 combattants harkis en Algérie qui, eux, veulent rester dans leur pays. Comment on fait avec eux? Ils sont armés. Vous savez ce qu'a dit la France? Écoutez, on va les désarmer, d'accord? Comme ça, vous pourrez prendre l'Algérie. Et pour se protéger, ils ont mis deux lignes dans les accords d'Évian. Deux lignes pour dire toutes les parties s'engagent à ne pas faire de représailles. Vous voyez? Donc, suite à ça, le 19 mars 62, les massacres de harkis ont commencé, d'accord? Vindicte populaire, ce que vous voulez, chacun, ceux qui n'avaient rien fait, vous savez, les combattants de la 25e heure, ont commencé à massacrer des harkis, des gens qui étaient simplement appelés. Et la France, par rapport à ça, a été gênée, et ils ont prévu, à ce moment-là, ils ont prévu un plan de rapatriement de 25 000 personnes, pas plus. D'accord. Ça veut dire que...
Et il y a eu à peu près 100 000 harkis. Mais on ne va pas refaire toute cette histoire. Moi, ce qui m'intéresse forcément, c'est votre témoignage à vous. Vous avez parlé du GPRA. C'est le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était en fait le bras politique et gouvernemental du Front de Libération Nationale, le FLN, durant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et le GPRA a négocié les accords de paix, les accords d'Évian. Ça sera la 60e anniversaire au printemps prochain. On reprendra Ahmed, bien sûr, parce que son témoignage nous intéresse. Et puis, on continue sur ce débat, parce que c'est un débat qui est toujours présent dans la société française, comme celui de l'Algérie, d'ailleurs, et de ces événements, de cette guerre. Blessures qui ne sont pas refermées. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.
Voilà.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On termine avec Ahmed, qui est le fils d'un ancien harki. Les mots de Macron, d'Emmanuel Macron, est-ce qu'ils vous ont touché, Ahmed?
Pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Emmanuel Macron, en 2017, il a dit, moi, comme ses prédécesseurs, si je suis élu, moi je vais tout de suite bouger, moi je suis jeune, je m'en fous de toutes ces chicanières, moi je vais tout de suite bouger. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa ministre, Madame Darrieussecq, a fait une loi, mais vraiment bidon, il ne s'est rien passé. Et là, vous savez, en fin de compte, c'est tout le temps la même chose. En 2001, Jacques Chirac, à 6 mois des présidentielles...
D'accord, mais alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimeriez?
Moi, je vous dis honnêtement, plus rien de ces gouvernements, parce que je sais de toute façon qu'il y a rien qui
se fera. Quelle est votre demande de fils de harki aujourd'hui? Parce que la considération, souvent j'entends dire il faut de la considération. Le fait de dire pardon, c'est une forme de considération, c'est de reconnaître les erreurs que la France a pu faire.
Vous savez, Pascal, la loi, une vraie loi de réparation, on ne l'a jamais eue et on ne l'aura pas. D'accord.
Ça serait quoi une loi de réparation? Ça se traduirait comment?
Une loi de réparation, déjà, c'est d'inscrire dans la loi déjà tout ce qui a été dit, c'est-à-dire toutes ces paroles comme le discours de François Hollande en 2016, quand il reconnaît la responsabilité de la France dans l'abandon et le massacre des harkis. Mmh. Une vraie loi de réparation, c'est-à-dire pas des indemnisations bidons avec 10 000 euros quand vous voyez tous les préjudices qui ont été.
Donc c'est une affaire aussi d'argent. Je dis pas Comment? Que c'est que ça, c'est aussi une affaire d'argent.
Mais moi, vous savez, l'affaire d'argent, je la mets au second plan. Bon. Moi, vous savez.
Ah oui, mais c'est vous qui en parlez.
Non, mais bien sûr. Non, mais vous me demandez.
Je vous demande ce que vous attendez, puisque j'ai du mal à exactement saisir ce qui vous rendrait le plus heureux, si j'ose dire, satisfait. Non, le mot heureux n'est pas celui qui convient.
Moi, ce qui me rendrait le plus satisfait, c'est qu'on inscrit vraiment dans la loi toute cette responsabilité de l'État français de l'époque, d'accord? C'est pas la France, c'est l'État français de l'époque, pour tout ce qui s'est passé, d'accord? Pour toutes ces privations de liberté. Moi, vous savez, mon père, il est parti en 2016. De 1962 à 2016, il n'a jamais pu retourner en Algérie. Et vous savez, entre autres, ce qui s'est passé, l'État français a donné la liste de tous les harkis à l'État algérien pour qu'on ne puisse pas rentrer. Moi, nous, on a essayé de rentrer trois fois en Algérie, trois fois on s'était refoulé. Il faut savoir qu'il y a des cercueils qui sont refoulés à la frontière algérienne.
Il avait quel âge, votre père, en 62?
Moi, mon père, en 62, bah, écoutez, je vais faire le calcul, il avait 31 ans.
Il était de 1931. Voilà.
Et vous savez, en 2003, juste une dernière chose, Pascal, si vous le permettez.
Je vous en prie.
En 2003, quand on est parti en Algérie, je suis parti avec mon père, je l'accompagne en Algérie, on a été refoulé. Mon père, il leur a dit, écoutez, vous avez quelque chose à me reprocher? Jugez-moi. Bien sûr, il n'avait rien à lui reprocher.
Il n'a jamais pu retourner en Algérie.
Jamais, et ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Et vous savez, moi j'en veux à Macron, comme j'en veux à tous les autres présidents, parce qu'il y a longtemps, qu'ils auraient pu clore le dossier. Ils n'ont jamais voulu le faire. Il n'y a jamais eu une réelle volonté politique. Il y a toujours eu des arrangements avec l'Algérie et les harkis sont toujours passés au second plan.
Et Ahmed, vous poursuivez, si j'ose dire, le travail de mémoire de votre père. Et vous avez des enfants, Ahmed ?
Oui, j'ai des enfants, oui.
Et ils sont sensibles à cette histoire-là avec les générations qui passent, forcément, tu t'éloignes de 1962 et peut-être sont-ils ou se sentent-ils moins concernés ?
Non, je leur ai expliqué l'histoire de leur grand-père parce qu'ils ont voulu la connaître, ils ont voulu savoir pourquoi nous-mêmes, on n'avait jamais pu avoir de voir nos grands-parents ni rien, pourquoi leur grand-père n'a jamais pu rentrer en Algérie. Donc je leur ai expliqué l'histoire calmement. Je leur ai expliqué que c'était une histoire très complexe. Contrairement à ce que, parce que vous savez, on a toujours voulu simplifier l'histoire pour dire, bah, d'un côté, il y avait des méchants français, de l'autre côté, il y avait le FLN qui se battait, et puis les harkis étaient là.
Et ils sont sensibles à cette histoire. Ils ont quel âge, vos enfants?
Bah, ma fille, elle a 20 ans et mon fils, il a 19 ans. Donc,
votre père est enterré en France?
En France, oui.
Et vous aimeriez, par exemple, qu'un jour, pourquoi pas, que sa dépouille puisse retourner en Algérie? C'était son souhait?
Non, parce que en fin de compte, pour moi, la terre, j'aurais voulu que de son vivant, il puisse voir au moins une fois l'Algérie, qu'il puisse au moins se recueillir sur la tombe de ses parents. Et ça, comme je l'aurais souhaité pour beaucoup d'anciens harkis, il en reste encore très peu en France.
Oui, je me demandais d'ailleurs combien il en restait.
Bon, vous savez, je ne sais pas. Il en reste très peu. Ça aurait été bien qu'on puisse enfin les autoriser à rentrer en Algérie, qu'ils puissent enfin aller sur leur terre natale, qu'ils puissent s'embrasser. Vous savez, je vais juste vous dire une chose par rapport à cette histoire de pour pouvoir retourner sur sa terre natale. On dit, comme une mère, une terre natale ne se remplace pas. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Algériens qui ne peuvent pas retourner en Algérie par rapport au Covid. Il y a des Algériens qui en souffrent depuis une année ou deux. Et moi, je voudrais dire à certains Algériens qui ont moqué mon père et moqué beaucoup d'anciens harkis, vous voyez, ça fait un an ou deux que vous ne pouvez pas rentrer en Algérie, regardez la douleur que vous avez, regardez la souffrance que c'est. Imaginez maintenant la souffrance de mon père et surtout la plupart étaient innocents.
Merci Ahmed. Mais c'est vrai que cette histoire est très particulière, le rapport de la France avec l'Algérie. Moi, souvent, je le dis à ce micro, l'Algérie était un département, c'était la France. Et tout d'un coup, on a dit à des gens qui étaient nés sur le sol algérien, vous partez en 24 heures et jamais plus, ils ne reviendront en Algérie. Et mettez-vous, Damien, Laurent, à la place de ceux qui nous écoutent aussi, qui sont nés dans une région, et on leur dirait du jour au lendemain, en Bretagne, vous devez partir, vous êtes né en Bretagne, mais vous ne retournerez jamais de votre vie en Bretagne. Et c'est le sort des harkis, c'est le sort des pieds noirs également. Et cela, beaucoup de personnes ont peut-être du mal à appréhender, à comprendre le traumatisme que ça a été pour cette génération-là. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est passionnant d'écouter Ahmed, fils de harki, Laurent.
Témoignage très poignant et vous pouvez continuer de réagir, de nous appeler au 3210 et nous interpeller sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Nous pouvons parler aussi de la crise des sous-marins après la perte de ce méga contrat de plus de 50 milliards d'euros. Philippe Etienne, l'ambassadeur de France aux États-Unis, a été rappelé. Un acte sans précédent vis-à-vis de cet allié historique. Il était l'invité ce matin d'Alba Ventura.
Je ne pense pas que ce soit simplement un geste de mauvaise humeur. Il faut analyser ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, et il faut qu'on en discute très sérieusement avec notre allié américain.
La France peut-elle se fâcher avec les États-Unis? En a-t-elle les moyens? Emmanuel Macron doit-il prendre rapidement la parole sur ce sujet? 3210, 3210.
Nous sommes avec Théo. Bonjour Théo.
Oui, bonjour Pascal, vous allez bien?
Ça va très bien. Alors c'est intéressant de vous écouter parce que vous avez 22 ans. Donc quel regard vous portez sur cette histoire de France?
Alors, si vous voulez, là, quand j'ai vu l'annonce d'Emmanuel Macron, j'étais content, j'étais satisfait parce que sur le fond, c'est une bonne chose, si vous voulez, parce que ça vient trop tard, évidemment, mais ça reste quand même une bonne chose, parce que, pour information, la mesure va coûter, entre guillemets, environ 300 millions d'euros pour tout ce qui est indemnisation, etc. Donc, c'est quand même une bonne chose sur le fond, mais comme d'habitude, ce qui me dérange, ça va être sur la forme. Comme d'habitude, on est encore sur, comment dire, une espèce de repentance, comme d'habitude. Je demande pardon, et on voit une espèce de manque de cohérence de la part d'Emmanuel Macron quand il envoie Gérald Darmanin s'agenouiller devant un monument qui est dédié au FLN, parce qu'il faut rappeler, hein, il faut rappeler, parce que on a souvent tendance à oublier que la France n'est pas la première fautive du massacre des Harkis. Le premier fautif, c'est le FLN. Donc quand Emmanuel Macron envoie son ministre de l'Intérieur se mettre à genoux devant un monument dédié au FLN et qu'ensuite il dit pardon aux Harkis...
Il était pas à genoux, Gérald Darmanin.
Il s'est mis à genoux. Si, bien sûr que oui. Gérald Darmanin qui, en plus, il faut préciser, est petit-fils de Harkis, s'est mis à genoux devant un monument et a déposé une gerbe de fleurs en se mettant à genoux.
Ah oui, non, mais c'est pas la même chose, déposer une gerbe de fleurs...
Il a fait les deux, vous pouvez vérifier.
Oui, non, mais je vais vérifier.
La gerbe de fleurs. Donc il fait ça un an plus tard, il dit « Oh pardon Harkis, si vous voulez, j'ai un peu... » On voit une espèce de manque de cohérence, si vous voulez, et c'est quelque chose qui s'ajoute à la repentance. Je pense qu'on
en fait, il a déposé une gerbe au martyr du FLN et ça avait suscité l'indignation. Mais
La vidéo est trouvable et j'invite les auditeurs
bien sûr.
Il se met à genoux en déposant la gerbe de fleurs.
Voilà, c'était hommage au martyr de la guerre, pouvait-on lire sur son compte Twitter ce jour-là.
Oui, au FLN, à ceux qui ont massacré les Harkis. Donc c'est un peu, encore une fois, un manque de cohérence.
Au martyr du FLN, hein, attention, c'est une gerbe qui a été déposée au martyr du FLN.
Oui, voilà, justement, donc les personnes qui sont mortes pour le FLN. Donc, si vous voulez, sous Emmanuel Macron, je pense que c'est le président qui s'est le plus excusé. On a eu les excuses pour le Rwanda, pour la Polynésie française il n'y a pas longtemps. On a eu aussi, c'est aussi un manque de cohérence, quand Emmanuel Macron dit que la colonisation est un crime contre l'humanité qu'a commis la France, il faut aussi dire que les Harkis se sont battus pour maintenir la colonisation en Algérie. Donc quand il dit que la colonisation est un crime contre l'humanité que la France a perpétré, il insulte les Harkis parce qu'il est très...
Je pense qu'il ne le redirait pas aujourd'hui, d'ailleurs, cette phrase. Théo, je vous propose de rester avec nous quelques secondes encore. Il est 13h55, c'est l'heure de Jean-Alphonse Richard et de l'heure du crime qui est programmée tous les jours à 14h30. Bonjour.
Bonjour Pascal. Aujourd'hui, écoutez, ça fait 35 ans, presque jour pour jour. C'était le 28 septembre 1986, Montigny-lès-Metz. Deux petits garçons retrouvés morts caillassés dans des conditions épouvantables. Cyril Bénin et Alexandre Becriche, il faut les citer parce que c'est leur mémoire aussi aujourd'hui dont on va parler. 35 ans et une vérité toujours, il faut bien le dire, incertaine. Et ce, malgré la condamnation, évidemment, de Francis Holm dans cette affaire. Holm qui a toujours nié les faits. Est-ce qu'il y avait une deuxième personne sur ce talus de la SNCF ce jour-là? Ça n'a jamais été exclu, ça n'a jamais été établi non plus. Aujourd'hui, on va revenir sur cette affaire. 35 ans après, il y a toujours les fantômes de Montigny-lès-Metz qui sont là.
Et M. Holm, Francis Holm...
Il est en prison.
Il est en prison, évidemment, et il terminera sa vie en prison.
Tout à fait, probablement. Oui.
Il est 13h56, on va marquer une pause et on se retrouvera dans quelques instants toujours avec Théo pour parler de ce sujet des Harkis. Vous pouvez aussi réagir sur d'autres sujets. Les sujets du jour, c'était le foot. Est-ce qu'il faut suspendre les déplacements de supporters adverses dans les stades? Parce que effectivement, quand il y a les supporters des deux camps, ça peut mal se passer. Puis on rendra hommage à René Malville. Je crois que notre ami Cyprien Sini, qui est Marseillais comme chacun sait et qui a fait sa chronique ce matin, lui a rendu hommage. Il va passer par notre studio. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes. Commerce.
À la seconde près, il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron demande pardon aux harkis, annonce un projet de loi de reconnaissance et de réparation pour ces anciens combattants recrutés par l'armée française durant la guerre d'Algérie. La France a manqué à ses devoirs vis-à-vis des harkis, a ajouté le président de la République. Rappelons que certains ont été abandonnés et victimes de représailles sur place. D'autres ont été rapatriés, mais placés dans des camps de transit où leurs conditions de vie étaient indignes. En Seine-Saint-Denis, les travaux de construction d'une piscine à Aubervilliers en vue des Jeux Olympiques de 2024, eh bien ces travaux sont suspendus. La Cour administrative d'appel de Paris vient de retoquer le permis de construire qui implique la destruction de jardins ouvriers. Et justement, trois jardiniers et deux associations de défense de l'environnement sont à l'initiative de cette procédure d'urgence. Puisque nous parlons du nord de la capitale, attention, le trafic RERB est totalement interrompu entre Paris-Nord et Aulnay-sous-Bois. En raison d'un problème électrique en gare de la Courneuve, la reprise n'est pas attendue avant 20h ce soir. Au moins une centaine de maisons détruites par la lave sur l'île de la Palma aux Canaries. Premier bilan après l'éruption d'un volcan hier. Bilan qui n'est heureusement pour l'instant que matériel. Plus de 5000 personnes ont dû être évacuées. 6 peintures, 2 sculptures et un carnet de dessins. En tout, 6 œuvres de Picasso sont cédées à la France par sa fille Maya. Cela permet à cette dernière de s'acquitter de ses droits de succession dont le montant est évidemment tenu secret. En tout cas, le public pourra découvrir cette collection à partir d'avril prochain au musée Picasso. La grisaille et les averses ne vont pas durer. Amélioration dès demain avec le retour d'un temps sec et ensoleillé sur les deux tiers nord du pays. Au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, en revanche, plus de nuages avec quelques averses. Averses orageuses pour la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Dans la journée, les températures demain iront de 19 à 22 en général et jusqu'à 26 en Méditerranée. Les courses ont lieu à Fontainebleau. Départ tout à l'heure à 15h15. Dominique Cordier vous conseille la combinaison suivante. Le 15, l'As, le 10, le 2, le 6, le 11 et le 7. Dernière minute, le 10, Red 50. Il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal.
Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Théo, un mot à ajouter avant d'écouter Salim?
Oui, alors j'en aurais juste pour 30 secondes. Ce que j'essaye vraiment de faire comprendre, c'est que oui, c'est bien d'indemniser les harkis, c'est quelque chose que la France leur doit, mais être toujours dans la repentance, c'est un signe de faiblesse en fait. Et la faiblesse, ça risque d'inspirer le mépris en fait. Et quand un pays se respecte plus lui-même comme ça, ça mène à des affaires en fait où les autres pays respectent plus la France en fait, et ça mène à des affaires comme par exemple le contrat australien où c'est complètement méprisé. C'est pas lié directement.
Non, c'est pas lié directement. Convenons-en.
Voilà.
Ben merci Théo. Alors Salim, bonjour Salim.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Alors le président de la République a demandé pardon aux harkis. Je ne sais pas si vous-même avez des ancêtres ou des aïeux. Plus exactement, qui était harki?
Non, du tout. Alors, j'ai demandé à participer parce qu'au fait, j'ai bondi de ma chaise parce que d'habitude, je suis très politique et voilà, je suis plus dans l'apaisement. Mais là, ce que je ne comprends pas, pourquoi la France, elle doit se faire pardonner pour les harkis? Est-ce qu'on demande à l'Allemagne de dire pardon aux collabos? Parce que nous, c'est comme ça le regard qu'on a par rapport à harkis. Et je veux pas être
pardon aux collabos. On va pas demander pardon. Pardon, collabo, si vous me permettez.
Non, mais je veux dire, vous n'avez pas compris. Pourquoi l'Allemagne ne demanderait pas pardon au collabo qui avait participé à la guerre de 39-45 avec l'Allemagne au régime des Vichy? C'est ça que je ne comprends pas. Et depuis tout à l'heure, je vous entends parler de la France contre le FLN, Non, ce n'est pas la France contre le FLN, c'était la France contre l'Algérie. La France est restée en Algérie pendant 130 années. Voilà, il y avait une guerre, c'était une guerre de libération contre une colonisation. Pourquoi aujourd'hui, on dit comme si c'était... Vous vous rendez compte si aujourd'hui il y a une guerre, imaginons, j'espère pas, mais la France avec les États-Unis et beaucoup de Français vont rejoindre les camps américains. Comment on verrait ces gens-là dans quelques années? C'est ça que moi je ne comprends pas.
Ah, Salim, on a perdu Salim. On a perdu Salim. 14h06, on marque une pause. On va refermer le chapitre Harki et on va rendre hommage à René Malville avec l'ami Cyprien Sini. Je vous ai entendu ce matin dans le Sœur de l'Info.
Tout à fait.
Vous avez mis un maillot bleu ciel couleur Olympique de Marseille aujourd'hui. C'est un sweatshirt. Et c'est vrai qu'il était le chouchou des médias. C'était l'homme qui parlait le Marseillais dans le texte, celui qui aimait nous emboucaner avec des histoires de fada qui étaient escagassées quand l'OM ne gagnait pas.
Vous
qui
faites demandait, une compile de votre parler marseillais, là.
Qui demandait qu'on lui parle meilleur.
C'est pas du tout cliché. Ouais.
Il parlait le marseillais à l'ancienne. C'est une langue qui tape là où ça fait mal, qui dit des choses avec vérité et drôlerie entre le pastaga et l'aïoli. Au con, il y a des gains ici.
Donc ça, c'est l'accent marseillais, Pascal ?
Ça, c'est l'accent marseillais.
Il y a des gains, vous savez ce que ça veut dire, il y a des gains ?
Il n'y a personne.
Eh oui.
Bah oui, c'est pour ça. Donc, vous allez nous dire ce que vous pensiez de René. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est vrai que c'était, entre guillemets, un bon client, comme on dit, que les journalistes aussi l'adoraient pour ça, qu'il était rigolo, qu'il était sympathique, mais qu'il était authentique, surtout. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur... Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il y a des personnages comme ça qui marquent la vie du public, des journalistes. Et c'est vrai que René Malville en fait partie, Cyprien.
Mais oui, alors on va lui rendre hommage.
Oui.
Souvenez, ces cheveux longs, cette voix.
Bonjour les enfants.
Et surtout cette faconde méridionale.
On va vous patafioler, on va vous ruiner, on va vous manger, on va vous escagasser.
Mais il en faisait des tonnes là où il était comme ça, il jouait un peu.
On appuyait sur le bouton, quoi. On lui disait vas-y, puis il y allait. Alors là, en bon français, ça veut dire que l'OM ne fera pas de cadeau à ses adversaires, hein. Je vous la fais courte.
Patafioler.
Ouais, patafioler, vous vous tapez, quoi.
Mais ça se dit beaucoup, mais c'est ça, gentil. À Marseille.
Non, pas tant que ça, c'est un peu cliché, mais bon, lui parlait comme ça. En fait, René Malville, via les médias, c'était donc devenu le supporter de l'OM emblématique.
L'OM, c'est le premier club de France.
Son amour, sa passion. Et donc, ça rime avec des raisons, souvent des coups de gueule. Alors, les coups de gueule, c'est le meilleur phénoméno, forcément.
Je vous garantis que j'ai pas passé une bonne nuit. Vous êtes des pitres. Vous me changez les idées. Je regarde des oraux.
Parce qu'en fait, ça, c'est très marseillais. C'est-à-dire qu'après un match de l'OM... Oui. Mais parfois, vous n'arrivez pas à dormir. Et donc là, il regardait Zorro.
C'est fascinant, je vous assure. Cyprien Sini, qui est journaliste, je le vois en permanence, un match de l'OM. Même si vous vous levez à 4h du matin, vous regardez jusqu'à minuit.
Ah bah oui. Et je peux ne pas dormir après un match de l'OM, c'est vrai.
Vous êtes, oui, mais vous avez quand même 40 ans. Il va falloir un moment que ça s'arrête.
Et non, normalement, ça ne s'arrête pas. Regardez René, jusqu'à 73 ans, ça l'a poursuivi jusqu'au bout. Néné, comme on le surnommait. C'était son surnom devenu personnage médiatique. Alors l'histoire est belle, presque par hasard. En fait, à la fin des années 80, il tenait un bar près du siège des radios à Marseille, dans le quartier de la Joliette. Il y avait toutes les radios, il y avait... voilà. Et c'est comme ça que les journalistes, en fait, allaient au bar boire un coup et ont découvert le personnage. Personnage parfois déroutant, c'est vrai.
Quand je parle, je trouve pas que j'ai l'accent marseillais. Je pense que j'ai pas l'accent, en fait.
Non, pas du tout. Il avait pas l'accent, Néné. Invité partout. Lui, l'ancien syndicaliste, il a été aussi conducteur de bus. Et il s'est retrouvé, donc, sur CNews, un jour, pour parler des insultes homophobes dans les stades. Et comment dire, c'était peut-être pas la meilleure personne à inviter. Hein. Il a parlé comme il le sentait.
Quand on me dit à moi, ouais, mais tu te rends compte, les enfants dans les stades, pourquoi les enfants, ils entendent d'être dans le stade pour entendre des conneries, demandez aux professeurs d'école ce qu'ils entendent toute la journée. Va ta mère, le t'es mort, je ta grand-mère.
On n'a pas besoin de rappeler ces gros mots et c'est.
Hein, il était comme ça.
C'est Sonia Mabrouk, oui, manifestement,
un
j'ai
petit peu perturbée.
La voix. Mais non, mais elle est perturbée. Mais là encore, il dit une chose juste.
Ben oui, non, mais c'est pour ça. Il y a un certain bon sens populaire. Il était comme ça, entier nature et surtout sans fioriture. Et alors, ce qui était bien avec lui, c'est qu'il croquait dans la vie. Tout ce qu'on lui offrait, il le prenait. À un moment, en 2005, on m'a même proposé de chanter une chanson.
Oui,
du
j'ai
coup,
entendu.
Il a chanté une chanson.
Je suis René Malville, supporter de l'Olympique de Marseille. Ici, bien sûr, c'est pas pareil. Je suis occitan de maison, mais marseillais d'adoption.
Et alors, marseillais d'adoption. Parce qu'en fait, on l'a tout le temps présenté comme le marseillais de service. Mais en fait, pas du tout. Il est né à Carcassonne. Et il est arrivé à Marseille qu'à l'âge de 9 ans, dans une ville où il a même été conseiller d'arrondissement en 2008. Avec une certaine fierté.
Cette ville m'a tellement donné de joie. Jamais je pourrais rendre à cette ville ce qu'elle m'a donné comme bonheur.
Et alors, c'est un peu moins connu, mais avant, il a travaillé à la RTM, la Régie des Transports Marseillais. Et il était syndicaliste, mais fort. La CGT, c'était pas assez puissant pour lui. Il avait monté son syndicat. Et un jour, lors d'une grande grève, bah, il a séquestré le patron de la RTM avec ses collègues et amis. Et c'est ça qui lui a valu de se faire renvoyer de la RTM, en fait. Voilà pour l'histoire. Bon, après, il a donné beaucoup triste. De bonheur.
D'abord, on est triste parce que le cancer qu'il a eu était très agressif. Et vraiment, ces derniers jours ont dû être très difficiles pour lui. On pense, bien sûr, à sa famille. Et le public lui a rendu un bel hommage hier au Stade de Lille.
Il y a eu une longue minute d'applaudissement et je pense que c'est pas fini, il y aura d'autres choses derrière.
François est là, restez avec nous Cyprien, François est là. Bonjour François.
Oui. Bonjour Pascal.
Vous le connaissiez,
Cyprien.
C'était une figure, elles ne sont pas si nombreuses les figures de supporters comme ça qui émergent dans ce monde du football.
Oui, c'était une figure un petit peu, que je trouvais bizarre, mais que je trouvais extraordinaire. C'est-à-dire, que c'était le Pagnol du XXe siècle, mais un Pagnol un petit peu même poussé à l'extrême, un Rému qui est extravagant dans le foot. Et surtout, il avait une particularité quand même, c'est que lui, qui se disait Marseillais, tenait la casquette parisienne très bien sur la tête. Donc, je pense que c'était la façon à lui de se démarquer un petit peu des gens dit ordinaire. Et puis moi je suis pas très fouteux, mais sa voix était automatique, c'est-à-dire quand on l'entendait on avait envie de l'écouter. Et si quelquefois il avait, comme disait Gaston Defer, une grande gueule, mais c'était des grandes gueules que maintenant on va plus entendre, et c'est bien dommage parce que c'est ça qui faisait le sel de la vie et c'est ça qui fait le sel du bonheur.
Et d'ailleurs au début des années 80 il faisait un peu de politique, René Malville, et il avait été écarté des municipales par Gaston Defer qu'il trouvait trop radical et qu'il n'avait pas confiance en lui.
Alors moi, je l'ai reçu le 23 août dernier, où il avait annoncé son cancer. Et on lui avait évidemment souhaité beaucoup de courage et tout ce qu'on dit dans ces cas-là. Et un mois plus tard, il n'est plus là. Donc, je le répète, on aura une pensée pour tout Marseille, pour ses amis, pour sa famille. Et puis, on entendra régulièrement peut-être sa voix dans des émissions de football. Ben, merci.
Je vous en fais une petite dernière.
Allez-y.
Était très impliqué, vous savez, dans la vie, il servit de sa notoriété pour des bonnes choses aussi. Et donc, au début du confinement, quand on avait du mal à respecter le confinement, il avait fait une petite vidéo avec sa femme.
Ah, ça, je l'adore.
Elle est géniale.
Et vous continuez à sortir en esquilant. Ouais, mais moi, je ne peux pas rester enfermé. Et bien, tu restes enfermé. Voilà. Voilà, moi, c'est ma femme qui vit, voilà. Et bien, après, on va jouer au Scrabble. Et voilà. Restez chez vous, bordel.
Et il en parlait souvent de sa femme, parce qu'elle s'intéressait très peu au foot. Et donc parfois il engueulait les joueurs en leur disant à cause de vous, je suis rentré de mauvaise humeur et je me suis engueulé avec ma femme. Et puis il était copain avec Jean Lassalle aussi. Cette rencontre mémorable, Jean Lassalle, René Malville.
Alors maintenant on va trinquer et on va lui dire santé les enfants.
Et allez,
l'OM. En fait, allez l'OM, allez l'OM.
Allez l'OM.
Santé papa.
C'est René Malville.
Merci Cyprien. C'est bien quand les journalistes de la rédaction passent nous voir.
Oh, ça me fait plaisir de venir vous voir.
Mais vous bossez tout le temps maintenant.
Tout le temps. Bon, le soir, 18h40, 19h, on défait le monde.
Qu'est-ce que vous préparez ce soir ?
Ah, on va parler de Jean-Marc Governatori, dites donc. C'est la primaire des Verts, il est arrivé dernier et il refuse le résultat, il n'est pas content. Il pense que oui, il est pas content.
Bon, vous n'avez pas voté, vous, à la primaire des Verts ?
Non, je n'ai pas voté à la primaire des Verts.
Bon. 14h16, bientôt.
Je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, je pars répondre sur ce que je fais ou pas.
Vous avez voté vous Pascal ?
Ah non, j'ai pas voté pour la primaire des Verts. Je ne suis pas inscrit sur la liste des Verts. Bah, évidemment, on est tous.
Tout le monde pouvait y aller. Hein.
Mais surtout, on a tous envie d'écologie, c'est ça qui est important.
Bien sûr.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On va parler des ultras. Vous savez, ces ultras sont des supporters radicaux qui défendent leur équipe quoi qu'il arrive. Ces supporters ont été privés pendant plus d'un an de compétition. Ils ne pouvaient pas entrer dans les stades. Et maintenant qu'ils sont dans le stade, on l'a vu pour Nice-Marseille l'autre jour et on l'a vu pour Lens-Lille samedi, ça se passe mal. Donc la question, elle est simple. Est-ce qu'il faut interdire le déplacement des ultras ? Comme ça, les supporters ne se rencontreront plus, les supporters des deux équipes. On est avec Yannick. Bonjour. Yannick, vous étiez au stade Bollaert.
C'est ça, comme depuis 1985, à tous les matchs.
Vous êtes à tous les matchs depuis 85?
Oui, j'ai 42 ans, j'y vais depuis l'âge de 7 ans.
Et vous n'avez jamais manqué un match en...
Deux matchs.
Ah oui, donc en 37 ans. 36 ans.
En 37 ans, j'ai raté que deux matchs à domicile à cause de décès familiaux. Donc,
championnat, Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue, tout, vous avez tout
c'est
vu.
Ça. Et j'ai fait tous les matchs à Amiens quand on a fait la saison à Amiens.
Dites donc, vous êtes dans le livre des records, Yannick.
Oh, pas forcément. Et j'ai fait quasiment tous les stades en France.
Ça ne doit pas être fréquent.
Oui, peut-être.
De manquer deux matchs en 35 ans.
Oui, peut-être, je ne sais pas.
Je pense.
Donc,
qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi, vous étiez dans le stade. Vous êtes un ultra ou pas ?
En fait, j'étais un ultra. En fait, à la base, j'ai fait partie des Tigers, des Red Tigers de Lens en 94. Et en fait, je suis parti du groupe pour créer ma propre section en 2001. Donc une section de supporters lambda parce que j'avais la possibilité à côté de chez moi de devenir président de section et donc en fait ça ne va pas trop avec le monde des ultras parce que concrètement c'est pas trop apprécié des ultras qu'on soit président d'une autre section. Mais bon, donc alors je me retrouvais dans le COP comme d'habitude avec mon garçon de 7 ans qui va au stade depuis l'âge de 2 ans et donc il est abonné également.
Depuis l'âge de 2 ans lui il va.
Ouais, c'est ça. Et donc en fait, nous sommes un habitué de des habitués de la Marec, donc toujours la tribune en face que vous voyez au stade avec toutes les belles couleurs.
Oui, parce que le COP est c'est assez rare. Le COP est sur une
en position latérale.
Ouais. Latérale, ce qui est unique en France. Généralement, c'est derrière le but.
Ouais, c'est ça, exactement. Et donc c'est parce qu'en fait, faut savoir qu'à Lens, en fait, il y a une politique de tarifaire très avantageuse en fait pour les supporters. On ne paye l'abonnement à Lens que 150 euros par an, ce qui est très peu cher. Et donc, ce qui fait que nous étions au stade tout tranquillement, la sécurité était très bien faite à l'entrée. Il y avait un dispositif avec des stagiaires et après des CRS. Ils ont fouillé deux fois en fait mon sac, il n'y avait pas de problème. Et donc nous sommes arrivés, la première mi-temps s'est très bien passée au niveau de l'ambiance. Bon, quelques invectives comme d'habitude, seulement vocales. Et là nous nous sommes aperçus à la mi-temps que les supporters lillois jetaient des choses sur les supporters lensois placés juste à côté d'eux en tribune familiale. Donc ce qui fait que nous avons vu un mouvement de foule commencer avec des Lillois qui voulaient passer au-dessus de la tribune, au-dessus du grillage qui séparait, ils avaient passé le cordon de sécurité qui avait très bien fait la sécurité qui était diligentée pour mettre à hauteur plus loin que le grillage. Et donc nous avons vu ça, et donc j'ai vu quelques personnes descendent de la marée courir le long de la cour pour aller voir ce qui se passait.
Je suis d'accord. Alors c'était un affrontement, mais moi la question qui m'intéresse c'est est-ce qu'il faut selon vous interdire le déplacement des ultras dans les stades adverses, parce que c'est plus possible. Une fois c'est à Nice, cette fois-ci c'est à Lens, c'est sans arrêt maintenant. Comme ces gens ne peuvent pas se discipliner tout seuls, on va les discipliner pour eux.
Mais en fait, la problématique, c'est pas forcément c'est les déplacements. Mais quand vous voyez, par exemple, moi, j'ai fait énormément de déplacements dans ma carrière. Des fois, on rencontre d'autres supporters sur des aires de repos.
Si vous les déplacez pas, je suis d'accord avec ça. Mais justement, comme ça, on arrête. Comme c'est des supporters radicaux ceux qui se déplacent, oui. C'est ce qu'on appelle des ultras. D'ailleurs, moi, je refuse de les appeler supporters, les ultras. Bon, faut peut-être arrêter le déplacement. Mais comme il est 14h23, qu'on est déjà en retard. Voilà, on se fait plaisir. Moi j'adore, j'ai les frissons. Hein.
Faudra revenir, hein, Pascal.
Mais je fais plus de foot. J'adorais aller à Lens.
Et si vous voulez venir une fois, vous prenez mon numéro.
Je viendrai. Est-ce que vous souvenez du match Lens-Marseille avec Adjovi Boko qui fait un débordement qui marque après 3 minutes de jeu?
Et en fait, c'est Basil Boli qui essaye de le tacler, et c'est Roger Boli qui marque.
Eh ben, je m'en souviens de ce match-là. Lens était en fusion.
48 912 spectateurs.
Je me souviens. C'est en quelle année, ça?
C'était en 92.
Eh ben, écoutez, c'est parfait. J'y étais. Salut Yannick.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission.
Le débrief.
Par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir au standard. Faut-il supprimer le pass sanitaire là où la situation s'améliore ? Olivier a décidé de vous expliquer son point de vue avec une question.
Je peux me permettre de vous poser une question, Pascal, un petit peu peut-être intime. Avez-vous un chien ?
Je n'ai pas de chien, non.
Alors évidemment, on veut aller encore plus loin. Pourquoi cette question ?
Vous n'avez pas de chien. Moi, j'en ai un. Et ben, en fait, le pass sanitaire aujourd'hui, comme on nous le propose, je vais avoir cette image-là. On va passer d'une laisse à maillon qui était très très courte. Hein, vous avez la tête du chien qui est collée à votre genou, à une laisse élastique avec un petit bouton sur lequel on appuie. Comme ça, on peut vous arrêter à tout moment. On n'est pas des chiens.
Sinon, le pass sanitaire, stop ou encore, Romaric lance sa proposition de calendrier.
Est-ce que garder le pass sanitaire, se dire on se garde une période d'observation de un mois?
Ah ben alors voilà, donc un mois, vous dites jusqu'au 1er novembre.
Voilà, on se garde un mois ou un mois et demi, le temps de vérifier
que courbe elle est bien. On a pris 15 jours de plus.
Pascal.
Et vous avez été nombreux à nous appeler pour parler des harkis. Emmanuel Macron a demandé pardon au nom de la France des combattants qui ont été aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie. Le père d'Ahmed a été harki.
Moi, vous savez, mon père, il est parti en 2016. De 1962 à 2016, il n'a jamais pu retourner en Algérie. Et vous savez, entre autres, ce qui s'est passé, l'État français a donné la liste de tous les harkis à l'État algérien pour qu'on ne puisse pas rentrer. Moi, nous, on a essayé de rentrer trois fois en Algérie, trois fois on s'est fait refouler. Il faut savoir qu'il y a des cercueils qui sont refoulés à la frontière algérienne.
Et Ahmed va encore plus loin et fait le parallèle avec l'actualité d'aujourd'hui.
Comme une mère, une terre natale ne se remplace pas. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Algériens qui ne peuvent pas retourner en Algérie par rapport au Covid. Il y a des Algériens qui en souffrent depuis une année ou deux. Moi, je voudrais dire à certains Algériens qui ont moqué mon père et moqué beaucoup d'anciens harkis, vous voyez, ça fait un an ou deux que vous ne pouvez pas rentrer en Algérie. Regardez la douleur que vous avez. Regardez la souffrance que c'est.
Et vous le savez, on adore connaître la vie des uns et des autres dans l'émission. Tiens, Damien, notre réalisateur ce week-end.
Vous êtes plongé sur le canapé à jouer, à faire des jeux vidéo?
Ah, pas du tout.
Non.
Repos.
Repos pour Damien et du côté de Monsieur Boubouk, c'est plus énergique.
J'ai été faire de la natation, ça me dresse Pascal.
Et Jean-François Richard a eu l'occasion d'accompagner Olivier à la piscine pendant son heure de brasse.
C'est un colosse, 2m06, 130 kilos.
Natation, piscine toujours, Julien Courbet nous a donné son analyse sur la crise des sous-marins après la perte de ce méga contrat de plus de 50 milliards d'euros.
Les sous-marins qui ont coûté combien, rappelez-nous?
Plus de 60 milliards, c'est une perte de commande. C'est pas qu'ils ont coûté, c'est qu'ils ne rapporteront pas. Soyez précis s'il vous plaît.
Vous avez raison et le gouvernement n'a qu'à jouer au jeu des 1000 euros avec nous pour essayer de se renflouer s'ils le veulent. Pendant deux siècles, ça pourra peut-être combler la dette.
Le message est lancé. Un dernier message à faire passer, Julien.
Gros bisous à vous tous.
Ah, n'oubliez pas, aujourd'hui, le président du conseil départemental de la Nièvre nous a quand même appris quelque chose.
L'été indien dans le département de la Nièvre, si vous voulez venir nous visiter, c'est plutôt assez sympathique et pas mal.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte, évidemment, avec la chanson de l'été indien.
On ira où tu voudras, quand tu voudras.
Ce n'est pas une chanson que j'aurais aimé chanter à celui que vous allez nous présenter maintenant, Jean-Alphonse Richard, parce que la galerie de monstres que vous nous présentez chaque jour est impressionnante. Aujourd'hui, Francis Holm.
Alors, c'est Francis Holm, mais c'est Francis Holm à travers le prisme de l'un des crimes qui lui est imputé, le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Pourquoi on fait Montigny-lès-Metz aujourd'hui? Parce que c'était il y a 35 ans, quasiment jour pour jour, et qu'il y a toujours des mystères sur cette affaire, en dépit de la condamnation de Holm.
À tout de suite.